Bonjour, merci pour votre fidélité à nos émissions. Nous allons évoquer cette semaine quelques grandes figures du scoutisme avec mon invité Christophe Carichon. Nous avions commencé la semaine dernière en évoquant l'histoire du scoutisme de sa fondation en Angleterre avec Baden-Powell jusqu'à son développement en France et en Europe. Un mouvement qui a formé la jeunesse, qui a appris à beaucoup à avoir des responsabilités de commandement et dont il y a quelques grandes figures qui se détachent à la vie parfois héroïque. Plusieurs sont morts, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, les armes à la main. Et nous allons voir quelques noms de ces personnes qui ont joué un rôle extrêmement important dans la formation de la jeunesse. Bonjour Christophe Carichon.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre micro. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Les grandes figures du scoutisme » qui est paru aux éditions Arthège. Et peut-être commençons par le commencement pour la France avec le père Sevin, puisque c'est lui qui a, alors non pas fondé, comme vous l'expliquez, mais en tout cas, on va dire, va quand même donner l'impulsion essentielle, et puis sauver, en plus, en 1924. Nous allons l'occasion d'y revenir. Le père Sevin est un jésuite, donc il n'est pas scout d'origine, puisque le mouvement est en train de naître. Comment découvre-t-il le scoutisme? Et pourquoi a-t-il adhéré à ce mouvement et en a-t-il fait une partie essentielle de sa vie?
Le père Sevin est un nordiste. Suite aux lois d'exil, il a dû partir en Belgique. Et puis, comme il se spécialise en études d'anglais, il va en Angleterre suivre, aussi pour soigner sa santé malade. Il y avait été avant. Et là, il va découvrir le scoutisme et il va être enchanté par ce jeune mouvement de Baden-Powell. Et en rentrant en Belgique, il va fonder une petite troupe où il va s'inspirer de la méthode scout de Baden-Powell. Mais en Belgique, évidemment, puisque son supérieur lui avait interdit de s'engager comme aumônier militaire dans les armées françaises, qui avait été permis aux religieux revenant d'exil à partir de 1914. Et de là, c'est lui sans doute, avec le chanoine Cornette, qui est aussi un grand personnage, qui lui était aumônier à Saint-Honoré-des-Laux, enfin il n'était pas aumônier, il était prêtre habitué à Saint-Honoré-des-Laux en raison de graves problèmes de santé. Et c'est lui, le père Sevin, qui va, oui, en effet, à mon avis, fédérer et construire le scoutisme des scouts de France, la Fédération nationale catholique des scouts de France, en 1920. Il crée les revues, il écrit des manuels, il écrit des très belles chansons, Notre-Dame des éclaireurs, le chant des adieux, et puis il crée aussi le camp école de Chamarandes, dont il devient le maître de camp, le commissaire à la formation des chefs. Donc c'est un jésuite qui prend de la place, sans doute comme beaucoup de jésuites, et qui va aussi s'attirer des jalousies, puisque en 1924, les autres membres de l'association lui demanderont d'abandonner une partie de sa charge pour ne garder que la direction des revues et le poste de maître de camp de Chamarandes, sans être forcément le commissaire à la formation des chefs. Voilà, mais c'est un personnage étonnant.
Vous insistez dans la présentation que vous faites dans votre ouvrage sur les chants. Oui. Parce que c'est un élément important du scoutisme et de sa pédagogie. On chante en marchant, on chante le soir à la veillée, donc il n'y a pas de scoutisme sans chant. Et une partie de ces chants sont aujourd'hui inscrits dans le répertoire populaire français, sont toujours chantés. Alors, chez les scouts essentiellement, mais parfois aussi dans d'autres mouvements.
Oui, c'est passé. Alors dans les années 40-50, c'est passé dans les colonies de vacances. Énormément de chants de marche, la route est longue, Yukaidi Yukaida, la belle fille aussi qui est un chant de marche. Beaucoup de ces chants sont, alors le père Sevin lui s'est basé sur des mélodies françaises populaires, et puis un autre jésuite, le père Doncoeur, lui avait été très frappé en faisant plusieurs voyages en Allemagne après la Première Guerre mondiale de voir les jeunes Allemands des jeunesses chrétiennes chanter, avoir un carnet de chants, et il le dit lui-même, et nous n'être capables de que chanter de lamentables madelons comme dans les régiments. Et c'est de là aussi que le père Doncoeur, donc un autre compositeur, va aussi s'inspirer lui de mélodies allemandes, par exemple, pour populariser certaines chansons. Bon, le Kyrie des Gueux, là, c'est plutôt une mélodie italienne, mais qui est connue, chantée par dans tous les pèlerinages, et qui trouve son origine au pèlerinage du Puy en 1942. Et puis, le mouvement des scouts de France va également être aidé par les fondateurs, le fondateur de la chorale, des chorales à cœur joie, qui vont donner au Scout de France et les Scouts de France donner au public, eh bien, l'importance du jeu scénique, l'importance du théâtre, l'importance du chant choral. Vous voyez, c'était pas des Scouts de France, mais les quatre barbus étaient des anciens éclaireurs de France, les compagnons de la chanson étaient des anciens des mouvements de jeunes du temps de Vichy. Donc, et tout ça, tous ces chants venaient du scoutisme.
Donc, ce n'est pas uniquement les jeux dans les bois ou les constructions. Le chant fait partie aussi de la pédagogie et de la manière de former la jeunesse.
Tout à fait. Une troupe qui ne chante pas est une troupe morte. Parce que chanter, c'est de la discipline. Chanter un canon, ce n'est pas, c'est pas facile. Chanter à plusieurs voix, chanter autant à la veillée aussi, ou chanter le Kyrielle à la messe, ça s'apprend. Sinon, on braille et c'est pas beau. Donc toujours cette recherche chez les scouts, enfin dans le bon scoutisme, la recherche du bien, du beau et du vrai, également pour les installations.
Alors vous évoquez le père Sevin, notamment sa forte personnalité qui lui a porté un peu préjudice à la fin de sa vie puisqu'il s'est fait chasser du mouvement et il finit un peu abandonné. Vous dites, enfin abandonné au sens où il ne rentre plus dans le mouvement scout. Et vous dites même que après sa mort, il y a eu une grande période où il a été oublié, où il a été redécouvert par la suite.
Oui, il est complètement rayé des revues, rayé de la mémoire. Le père Sevin a une personnalité attachante, mais aussi qui peut exaspérer. Il exaspère d'ailleurs ses confrères qui l'écrivent. J'ai trouvé énormément de lettres dans les archives jésuites à Vanves, et c'est la raison pour laquelle, du jour au lendemain, le conseil d'administration des Scouts de France va le débarquer de toutes ses responsabilités, lui interdire de porter la soutane beige qu'il portait en camp, et donc lui imposer la soutane noire, enfin c'est le supérieur des jésuites, la soutane noire des prêtres de l'ordre de Saint-Ignace, et il va être simplement autorisé à rester aumônier des diocésains des guides de France à Lille et aumônier d'une seule troupe, la 9e Lille, qui est la troupe qu'il a mis sous le patronage de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il aime beaucoup, et ce jusqu'à sa mort. Et puis ensuite, il va mourir dans les années 50, en effet oublié de beaucoup, mais aujourd'hui il a été redécouvert puisque ses livres ont été réédités, et chacun des mouvements catholique d'aujourd'hui, donc les scouts et guides de France, les scouts d'Europe ou les scouts unitaires de France, évidemment, ramènent à eux la soutane beige du fondateur et pour se réclamer de sa pédagogie.
Une autre figure très attachante, celle de Guy de Larigaudy, donc un garçon très étonnant, comme on va le voir, qui est mort en 1940 lors des combats en Belgique. Garçon étonnant parce qu'il a une santé qui est fragile.
Oui.
Et pourtant, il est notamment connu pour un raid qu'il a fait de Paris à Saïgon.
Voilà, Guy de Larigaudy est un périgourdin, Saint-Martin de Ribérac, pas très très loin de Bergerac. Et en effet, c'est un poète, c'est un garçon très sensible, qui n'est pas très heureux dans ses études, et puis, mais qui se révèle par le scoutisme, en particulier par le scoutisme des aînés, ceux qu'on appelle les routiers. Et en effet, en 1937, avec un camarade qui s'appelle Roger Drapier, camarade mécanicien pour le coup, ce qui n'est pas le cas de Guy de Larigaudy, ils vont acquérir une voiture, une Ford. Et ils vont partir en raid, en effet, partant de Paris pour aller jusqu'à Saïgon. Ça avait déjà été fait en avion, mais jamais en voiture. Et il va leur arriver des aventures extraordinaires avec... ils manquent de se noyer dans le Gange, ils sont attaqués par des pirates, mais ils étaient partis armés, ils avaient deux revolvers dans la voiture. À l'époque, on pouvait, même s'il doit les cacher à un moment quand il passe la douane française, mais et puis il va finir par arriver... à Saïgon. Guy de Larigaudy, c'est vraiment le routier de légende. D'ailleurs, ce raid inspirera dans les années 1980 deux autres aventuriers, Édouard Cortès et son ami dont j'oublie le prénom, mais Flichy, qui eux-mêmes partiront en deux chevaux sur les traces de Guy de Larigaudy. Donc là aussi, une aventure, comme quoi les aventures peuvent être aussi encore faisables aujourd'hui. Et Guy, quand la guerre arrive, évidemment, ne recule pas. Alors si une chose encore, c'est que Guy de Larigaudy est aussi un auteur de romans scouts. Il a écrit Hugues sur la préhistoire, beaucoup de romans animaliers. Il était fasciné par la préhistoire et les animaux. Et puis il part en 1940 dans un escadron de cavalerie. Il est cuirassier et c'est en 1940 en effet, comme vous le disiez, que devant l'attaque du 10 mai, il va mourir les armes à la main, et les Allemands qui tueront ces 5 ou 6 soldats français, ces 5 ou 6 cavaliers, eh bien, présenteront les armes pour célébrer leur héroïsme. Et on trouvera plus tard, dans la chambre de Guy, et puis également sur son cadavre, plusieurs lettres, plusieurs textes très beaux, très simples, qui ont été réunis par sa famille dans un très beau petit recueil, toujours édité, qui s'appelle « Étoile au grand large », et que je ne peux que conseiller à nos auditeurs, parce que ce sont aussi bien des phrases de bon sens que des jolis petits textes de méditation.
Le fait de faire ce raid Paris-Saigon, ça rappelle aussi la croisière jaune de Citroën.
Oui.
Donc c'est une inspiration de ces mouvements de découverte qui avaient été lancés quelques années auparavant.
Il y a énormément de scouts qui vont être à l'origine du Club français des explorateurs. Paul-Émile Victor était un éclaireur de France. Paul Cause également, que j'évoque dans le livre, qui lui va partir à la découverte des tribus indiennes et dont s'inspirera, même s'il le disait pas forcément beaucoup, Jean Raspail dans son journal Peau Rouge. Et puis voilà, on a beaucoup de scouts, de chefs que l'on retrouve dans ces explorateurs, parce qu'ils veulent repousser les limites, et puis ils ont appris la nature, ils ont appris à découvrir la nature, ils ont appris à aimer la nature et aussi à la dompter. Donc c'est vrai qu'ils s'inspirent de la croisière jaune. Mais ce qui est triste pour Guy de la Rigaudie et Roger Drapier, c'est que partant en 37, au moment du Front populaire et des crises sociales, eux qui voulaient une Renault ou une Citroën n'en ont pas eu, ils ont dû se contenter d'une Ford en raison justement de mouvements sociaux qui a empêché qu'on leur donne une voiture pour en faire en plus de la publicité, puisqu'elle est arrivée jusqu'à Saigon. En morceaux, mais elle y est arrivée.
Donc ça fait une belle publicité pour Ford.
Oui, c'est une très belle pub pour Ford, puisque Ford va ensuite leur offrir, dès qu'ils seront arrivés à Saigon, une voiture toute neuve, qu'ils laisseront aux scouts là-bas.
Vous évoquez donc Guy de la Rigaudie qui est décédé en 1940. En 1940. Il y a eu d'autres scouts aussi qui ont péri pendant la guerre, soit qui ont été résistants, qui sont morts les armes à la main, ou qui sont morts en camp également.
Énormément. Marcel Callot, donc jossiste et chef de patrouille à Rennes. Agnès de Nanteuil, qui était agent de la résistance, agent de renseignement, et qui, elle, après avoir été arrêtée par la Gestapo à Vannes, emprisonnée à Rennes, a été blessée puis est morte sur le chemin des camps à Paray-le-Monial, mais également les routiers du clan Guy de la Rigaudie, justement de Belfort, où plusieurs vont mourir au combat. Et puis énormément de pilotes, de chefs de char, de la 2e division blindée ou de la 1ère armée du maréchal de Lattre. Vous savez, les scouts, c'est un ancien officier parachutiste, Jean Pouget, qui disait les boy scouts et les militants communistes font les meilleurs sous-officiers parce qu'ils ont l'habitude de commander, et ils ont été formés pour ça, et puis ils aiment ces responsabilités. Et c'est vrai qu'on on trouvera jamais un scout à dire non. Et c'est vrai qu'il y en avait énormément dans les équipages ou dans les régiments. Et quand ils se retrouvaient d'ailleurs dans les régiments, en Indochine c'était pareil, en Algérie plus compliqué. Eh bien, ils se retrouvaient entre eux pour aller dire le chapelet, pour aller à la messe, en clan militaire, ce qu'on appelait les clans militaires. Il y en avait un à Polytechnique, le clan des Rois Mages. Il y en avait un à Saint-Cyr. Et puis il y en avait sur quelques bâtiments de guerre aussi en 40.
Donc on a plus de militants du Parti communiste aujourd'hui, ou plus beaucoup, mais on a encore des scouts.
Oui, on a encore des scouts.
Alors une autre figure que vous évoquez, c'est Jeanine Chabrol, qui a mis en place le système des louvettes notamment, parce que dès ses origines, ou peu après sa création, le scoutisme a intégré des jeunes filles et leur a donné des responsabilités et leur a permis aussi de pratiquer ces sports de garçons.
Exactement. Alors, au début, c'est très très mal vu. Alors là, on ne va pas parler des guides, qui sont les mouvements uniquement féminins, mais en effet, des cheftaines qui ont été recrutées pour s'occuper des petits garçons qu'on appelait les louveteaux, en référence à deux références. D'une part, le livre de la jungle de Kipling, et d'autre part, le Saint-François d'Assise du loup de Gubbio. Et donc, il fallait s'occuper de ces petits garçons. Alors, à ce moment-là, on a deux solutions. Soit on prend des grands garçons pour s'occuper des petits garçons, donc des adolescents de 18-19 ans qu'on va appeler des louvetiers, mais assez rapidement, le père Sevin considère qu'il est préférable que ce soit des jeunes filles qui s'occupent des petits garçons. Alors les petits garçons vont pas être très contents que ce soit des grandes sœurs au début, et puis ils vont accepter là aussi, puisqu'il faut bien obéir. Mais ces jeunes filles qui, en effet, dans les années 1920, 1930, comme on dit, vont courir avec les garçons dans les bois en jupe courte. Alors attention, la jupe courte à l'époque, c'est quand même assez long. Eh bien, vont scandaliser la bonne bourgeoisie. Mais on va trouver énormément de jeunes filles à s'occuper des louveteaux. Le chanoine Cornette, quand il recrute Jeannine Chabrol, il lui dit « Mademoiselle, il paraît que vous savez nager ». J'ai vu à Rennes aussi dans mes recherches, alors là c'était pour les guides, mais une jeune fille à Brest qui conduisait une voiture, et l'aumônier de la première Brest l'a arrêtée, lui a dit « Mademoiselle, puisque vous savez conduire une voiture, vous saurez également conduire une meute de louveteaux ». Et elle a accepté, voyez. Alors en effet, ce sont ces jeunes filles qui s'en occupent. Alors la première que j'ai voulu mettre en avant, pas très connue, c'est en effet Jeannine Chabrol, qui, après avoir fait avec le chanoine Cornette, essayer de faire autre chose que les louveteaux, parce que les louveteaux, rappelant Kipling qui était franc-maçon, etc., toujours la même chose. Donc ils ont lancé les genêts, mais les genêts, ça n'a pas du tout marché. Donc pour un petit garçon, se comparer à une fleur, ça marchait pas. Donc ils sont revenus aux louveteaux, et c'est Jeannine Chabrol qui va partir se former en Angleterre, va rencontrer Lady Baden-Powell, va rencontrer Baden-Powell, va être cheftaine à Londres, et en revenant en France, va reprendre le louvetisme et va, je pense, véritablement lancer le louvetisme français.
Parce que Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme, s'est beaucoup appuyé sur son épouse, avec qui il s'est marié assez tard d'ailleurs, oui, mais qui a été la cheville ouvrière pour le scoutisme féminin.
Exactement, exactement. Pour le scoutisme féminin, en effet, Olaf Baden-Powell, qui était considéré d'ailleurs comme la cheftaine guide mondiale, a beaucoup travaillé. Mais moi, j'ai peu travaillé sur le scoutisme féminin, d'abord pour une raison de temps, ensuite parce qu'il fallait faire des choix. Et quand je parle ici de Jeannine Chabrol, ou de Lizig Géraud-Kérode, ou de Rosaine de Montjamon, donc Lizig Géraud-Kérode, fondatrice des guides et scouts d'Europe, Rosaine de Montjamon, la femme de Pierre de Montjamon, premier président des scouts unitaires de France, ce sont trois cheftaines de louveteaux. Donc ce sont trois jeunes filles qui se sont mises au service des petits garçons, à la différence des guides qui, elles, sont complètement entre filles.
Et justement, dans cette fondation des guides et scouts d'Europe, quel était le rôle?
Alors c'est très particulier, la fondation, assez compliqué aussi, la fondation des guides et scouts d'Europe. L'origine, ce sont deux jeunes chefs et cheftaines et d'autres. Donc Périg et Lizig Géraud-Kérode, ce sont des Bretons, même s'ils sont nés à Montauban, enfin en tout cas de famille bretonne.
Ils ont un prénom breton.
Voilà.
Il y a un prénom et un nom breton.
Ils ont bretonisé leur prénom, qui sont chefs et scouts de France et guides de France, plutôt de routiers, et qui ont réussi à développer un énorme groupe en plein centre de Paris, au sein de l'émigration bretonne, au sein des Bretons de Paris. On trouve chez eux des louveteaux, des Jeannettes, évidemment, mais on trouve aussi un ensemble instrumental breton qu'on appelle un bagad en breton, où vont faire leurs premières armes de grands musiciens comme Alan Stivell, le grand barde des années 70, et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un scoutisme très marqué par le nationalisme breton. Et pendant la guerre d'Algérie, pendant mai 68, pendant toute cette évolution, même si 68 arrive après, Pierre Géraud, donc Périg et Lizig Géraud-Kérode, ne se retrouvent plus dans le mouvement de leur enfance et vont avoir l'opportunité de se rattacher à une petite association de scoutisme européen, où ils vont finir par évincer d'ailleurs l'un des premiers chefs, Jean-Claude Alain, un auteur de romans scout, et ils vont prendre la direction ils vont fonder les guides et scouts d'Europe, qui va connaître un immense succès en récupérant énormément de déçus de la réforme des scouts de France dont nous avions parlé la dernière fois. Donc ces guides et scouts d'Europe vont recruter en ville, vont recruter eux alors peut-être plus à la campagne ou dans des petites villes rurales, et vont avoir un développement un développement très rapide, mais aussi très difficile, parce qu'ils vont être refusés par les prêtres, par les évêques, qui leur refusent l'entrée dans les églises, étant considéré comme un mouvement scout non officiel. C'est pour ça d'ailleurs que depuis cette époque-là, les scouts d'Europe n'ont pas d'aumôniers, mais ils ont des conseillers religieux. Alors maintenant, tout ça, c'est évidemment calmée.
Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés scouts d'Europe? C'est, il y avait une volonté de pan-européisme, parce qu'on est après la Deuxième Guerre mondiale ou...
Oui, tout à fait. Chez les Géraud, c'est tout à fait ça. Oui, cette volonté européenne, cette idée européenne, ce rêve européen. Et puis, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que ce sont des nationalistes bretons et qu'ils ne... Il faut lire les écrits de Pierre Géraud, qui ne se sentent absolument pas français... ils se sentent beaucoup plus bretons que français, sans être autonomistes, mais en tout cas en étant très certainement régionalistes. Ce qui va lui poser problème, parce que son groupe de 200 à 250 personnes de Bretons de Paris, il pouvait les tenir, mais quand il voit arriver dans son association bretonne, mais appartenant au scoutisme européen, des centaines de familles qui, eux, sont plutôt catholiques et français toujours, si vous voulez, il va se trouver submergé et il ne va pas pouvoir continuer à faire, ou très difficilement, à faire vivre l'idée bretonne dans son contexte européen. Mais c'est vrai que son scoutisme c'est un scoutisme des peuples, c'est un scoutisme des nations, et c'est en ce sens qu'il a, lui, avait vu l'Europe comme une chance pour les Bretons. Mais le fait est que son mouvement est devenu plus français quand même qu'européen.
Oui, c'est un aspect qu'on trouve dans pas mal de mouvements régionalistes. C'est finalement l'intégration à l'Union européenne. Ça, chez les Catalans, chez les Écossais aussi. Enfin, c'est de dépasser la nation par le cadre supranational.
C'est ça. Bon, les scouts d'Europe ont toujours favorisé également le régionalisme, mais en ce sens, ils sont tout à fait fidèles aux scouts de France des années 1940. Pierre-Louis Gérin, que j'évoque aussi, avait bien compris qu'on ne pouvait aimer la grande patrie qu'en faisant vivre les petites patries. La France, la Bretagne, la Normandie, les blasons, les traditions, la culture, qui n'est pas du folklore. Et c'est vrai que Guy des Scouts d'Europe, comme Scouts Unitaires de France et les Scouts de France en leur temps, étaient très ancrés dans leur province. C'est pour ça qu'ils ont sur la manche de leur pull ou de leur chemise le blason de leur province.
Et est-ce que la question années 60, 70, années 50, 60, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, ça a eu un impact sur le mouvement dans la des divisions, des oppositions qu'il y aurait pu y avoir?
Oui, sur les aînés qui sont... Alors, il y a une date importante, c'est la bataille de Dien Bien Phu. En 54, les parachutistes et la Légion ont perdu face au Viet Minh, et ça a quand même joué un rôle dans l'imaginaire collectif français. Ensuite, le début de la guerre d'Algérie va poser un problème tout simplement aux jeunes qui doivent partir. Faut-il partir? Dans quelle mesure faut-il partir? Et un drame va se nouer au niveau de la route des scouts de France, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Jean Muller dans les années 1956. Jean Muller est un membre de l'équipe nationale route des scouts de France. Il part en Algérie. Il est témoin de torture, d'exactions, de corvées de bois. Il l'écrit et les lettres vont être publiées par le Centre national, mais par l'équipe nationale route. Après la mort du sergent Jean Muller lors d'un accrochage avec les Fellaga. Donc ça va faire en effet une fracture. Mais attention, cette guerre d'Algérie va considérer, comme je vous l'ai dit, uniquement les routiers. Le jeune qui joue dans les bois, dans la nature, est très très loin de tout ça. Il n'est pas politisé, lui. Mais c'est vrai que les plus aînés, et c'est normal, commençant à goûter à la vie politique, à la vie sociale, vont évidemment davantage se politiser et évidemment se poser la question: dans quelle mesure peut-on être utile à la société? En 1934, lors des manifestations du 6 février, les routiers scouts de France étaient dans la rue pour crier à bas les voleurs, et puis on les retrouve en 1956, certains contre la guerre d'Algérie, d'autres pas du tout, d'autres énormément servent aussi dans les régiments comme officiers. Donc oui, il y a une forme de fracture. Et puis après les années 60, la route des scouts de France va complètement s'étioler pour ne devenir qu'une portion congrue.
La question des routiers, ça naît à quel moment et en quoi ça consiste exactement?
Les routiers, c'est à partir de 17 ans et c'est une forme de scoutisme pour les plus grands, une forme de scoutisme peut-être plus réfléchie. Leur devise, c'est servir. On leur demande de se mettre au service aussi des unités qui manqueraient de chefs. c'est un scoutisme qui est quand même, qui me paraît quand même plus, c'est un engagement individuel comme les guides aînés, mais qui me paraît plus incomplet. C'est un scoutisme pour soi-même, ou alors plus incomplet, ou plus, pour couronner les deux autres branches. Voilà, c'est vraiment une progression individuelle.
Et là, on est assez éloigné de ce que pensait faire, enfin, ce qu'a fait Baden-Powell au début, qui était plutôt axé sur les plus jeunes, sur les enfants.
Oui, mais Baden-Powell a pensé également cette route, hein, comment continuer le scoutisme pour les plus grands et les préparer ensuite à être des citoyens utiles. Donc, il a écrit aussi quelques livres, Roving to Success, justement pour essayer de structurer la branche route. Mais il n'empêche que le scoutisme, ça reste quand même l'adolescent de 12 à 17 ans, celui pour lequel, en effet, Baden-Powell a tout composé, a tout écrit, avec et ensuite complété par le Percevin.
Vous avez évoqué en début d'émission là, enfin, les communistes et les scouts. Les communistes ont aussi le mouvement de jeunesse, parce que la jeunesse est toujours un enjeu pour les politiques. Est-ce qu'il y a eu, dans les années 60-70, une concurrence entre mouvement scout et mouvement communiste? Est-ce que les communistes n'ont pas pu créer leur propre mouvement scout?
Ils avaient les faucons rouges. Je dirais qu'il y a une forte animosité dans les années 20 et 30, parce que tous les mouvements ont leur mouvement de jeunesse, l'Action française, bon, avec les camelots, les trois flèches pour les jeunes socialistes. Donc là, vraiment, ça se termine plutôt à coup de bâton. Dans les années 60, les scouts de France, tout du moins la branche aînée, a pris de telles positions progressistes, on va dire, en tout cas ceux qui ne sont pas passés aux Europes ou aux scouts unitaires, que je crois que le Parti socialiste ou le PSU, même à l'époque, ou les mouvements de jeunesse communiste n'avaient pas besoin de créer un mouvement scout, puisque de toute façon, la majorité, beaucoup de cadres, si on veut, des scouts de France après 68, étaient clairement dans des positions tellement progressistes qu'il y avait presque plus de différence. Mmh. Mais ce qui n'empêchait pas aussi d'autres d'être dans d'autres positions politiques en participant aux réunions, par exemple, de la Cité catholique de Jean Housset. Voyez. Mais là, c'est déjà plus du scoutisme. Mais ça reste de l'engagement au service de la société.
C'est-à-dire qu'on passe d'une formation à la jeunesse, enfin pour les plus jeunes, à une forme d'engagement politique qui, bon, là, on change de sens.
C'est plus on passe d'un mouvement de jeunes à un mouvement de jeunesse, plus exactement. Oui, tout à fait. Après, les engagements politiques sont souvent individuels, mais on trouvera aussi parmi les hommes politiques de cette époque-là qui vont naître à ce moment-là. Je parlais du PSU, parce que dans le PSU, il y avait beaucoup d'anciens scouts de France ou d'anciens éclaireurs. Lionel Jospin, Michel Rocard étaient des anciens éclaireurs unionistes de France. Celui qui conseillait le PSU pour les affaires militaires était un ancien chef des scouts marins de Brest. Voilà. Après, ce sont des engagements individuels.
Merci beaucoup, Christophe Carichon.
Merci
d'avoir
à vous.
Évoqué cette histoire du scoutisme. Je rappelle votre ouvrage, Grande figure du scoutisme, hier et aujourd'hui, le scoutisme toujours vivant, effectivement, qui est paru aux éditions Artege. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.